Dans le tempo, vous êtes dans le podcast des passionnés de musique, épisode 71. Mon cher Daz.
Salman, je suis ravi de participer à cette émission.
Tu viens d'arriver en plus.
Je suis arrivé à peine la porte franchie, on m'a dit assieds-toi. C'est parti parce que j'étais en retard. Effectivement, je suis en retard et je suis en train de mettre notre invité en retard et je présente réellement mes plus sincères excuses.
Vous êtes toutes excusées.
Mais c'est pas de ma faute.
C'est merveilleux.
Gilet jaune.
Ah oui, facho mais pas fâché, c'est ça?
Voilà.
Non,
l'inverse.
C'est l'inverse.
Fâché mais pas fâché.
Ah pardon. Je me suis trompé.
Merde, on va bien pas tenté. Se faire des copains.
Bon, en tout cas, bienvenue dans le podcast des passionnés de musique, dans le tempo évidemment. On se retrouve Daz un mercredi sur deux, pour explorer le monde de la musique, tout simplement, j'ai envie de dire.
Un mercredi sur deux dans l'émission et généralement un jour sur un dans les commentaires. Non.
Ah, c'est vrai qu'il peut y avoir des commentaires.
Tous les shorts problématiques que vous produisez.
Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Tout va bien.
Et dans lesquels vous me foutez en collaborateur, ce qui fait qu'après j'ai plein de mentions.
Mais écoute, c'est parce que les gens sont investis dans DLT, ils ont envie de réagir aux commentaires.
Ah, ça réagit bien. Je sais que l'essentiel c'est que ça buzz.
Et je pense même, tu sais, Daz, qu'ils réagiront à cet épisode puisqu'on reçoit Jeanne Adead.
Oui.
Ça va?
Ça va bien, merci.
Et on a de la chance.
Bienvenue.
Parce que c'est une artiste.
Très rare.
Très rare, à plein de niveaux certainement. Non, elle fait un peu d'interview par exemple, mais en termes de talent, on est bien.
Daz. Ok.
Ouais.
Non, parce que maintenant.
Ouais, maintenant, on hiérarchise.
Très bien. Très bien. Je savais pas si on pouvait.
Et j'ai envie de dire que Jeanne, c'est au-dessus du reste. C'est pas vrai.
C'est pas vrai.
C'est bien, Jeanne.
Je dirai ma note à la fin de la.
Ouais, on va voir ce qu'on veut faire.
La session.
Non, je te présente rapidement quand même, parce que tu es musicienne. Formée au conservatoire, ça fait quelques années déjà maintenant, issue plutôt du milieu classique et jazz. D'ailleurs, tu commences ta carrière en tant qu'interprète, chanteuse dans le monde jazz. Puis assez vite, en fait, t'as envie de créer ton propre répertoire. Te réinventer d'une certaine manière, avec une musique qu'on pourrait qualifier de plus pop, mais avec quand même de grosses sonorités électroniques. Et ça va t'amener à sortir 3 albums. Qui sont Bisensational en 2015, Radiate en 2018 et By Your Side, le dernier en date en 2022. Moi, ce que j'aime bien Daz avec Jeanne Adead, que j'avais vu d'ailleurs en concert en 2019.
Oh, bravo.
Absolument, c'était pour la fête de la musique. Tu sais, Radio France organise chaque année à l'Olympia un concert gratuit. Très très cool. Et t'étais en 2019 à la
fiche. Le front-il cette année, Radio France est dans la salsa en ce moment.
Ah, ouais. C'est vrai qu'il y a des histoires en ce moment.
Des histoires.
Mais en tout cas, le concert de Jeanne était très bien.
Ah, ça c'est très rassurant.
Non, tu sais, il y a un truc qui m'avait marqué, Jeanne. C'est que c'était à l'époque où tu avais sorti donc, l'album Radiate et tu avais eu un tube sur cet album qui s'appelle Mutate, qui a beaucoup été diffusé. Mm-hmm. C'est comme ça que je t'ai découvert d'ailleurs. Et je connaissais pas ta musique au-delà de ce morceau-là. Et j'avais été impressionné parce que tu étais seul sur scène accompagné par un batteur, mais un peu plus à l'arrière, j'ai envie de dire. Et sur la scène de l'Olympia, qui n'est pas non plus une scène minuscule, on voyait que toi.
Il n'y avait quasi que moi, quoi.
Ouais, non mais parce que
c'est pratique.
Ta façon d'occuper l'espace, en fait, m'avait impressionné. C'est un truc qu'on doit te dire régulièrement, j'imagine.
Je sais. Oui, tout le temps.
Non, mais tout ça pour dire qu'il y a dans ta musique un truc, parce que tu vas beaucoup la défendre en live, et on sent qu'il y a un rapport au corps particulier, une recherche en tout cas dans ce sens-là, et qui je trouve te définit en partie.
En tout cas, le rapport à la scène et à la présence dans le sens présent, être présent, ça oui, c'est évident, c'est une grosse partie de mon travail. Ouais.
Mm. Et donc c'est quelque chose que tu taffes réellement ou c'est un peu naturel
Effectivement, on m'a quand même toujours dit ça quand j'ai commencé.
C'est peut-être que c'est vrai.
Et en tout cas, du coup, au début où j'ai commencé, où j'étais même étudiante, etc., c'est quelque chose qui revenait souvent. Au tout début, quand je chantais, en fait, c'est comme si je perdais connaissance, tu sais, est-ce que c'était une transe ou est-ce que c'était un truc comme ça.
Ça. Ouais.
Et je sortais de scène, j'avais fait un blackout, je me rappelais pas du tout de ce qui s'était passé.
Ouais.
Et une grosse partie de mon travail à l'époque, quand j'étais très jeune, ça a été de reconscientiser tout ça en croisant les doigts que j'allais pas perdre le que j'avais l'impression qui était magique, du coup. Mmh. Et et pour pouvoir avoir une comment dire une un contrôle pas dans le sens contrôle freak, mais un, en tout cas un pouvoir sur ce que j'étais en train de faire et de ce que j'étais en train de performer. Et voilà, ça a été un gros truc au début, d'avoir confiance que le travail et la technique me feraient pas perdre le truc qui était un petit peu là comme par magie au départ.
Mais du coup, ça se produit quand tu montes sur scène ou quand il y a du public et que tu le vois ou quand il y a les premières notes qui jouent. C'est quoi le trigger, en fait?
À l'époque et pendant des années, en fait, beaucoup, c'est l'endroit de la scène. C'est-à-dire que c'est toute l'organisation de la scène. C'est, donc, t'as une scène avec un public en face, des lumières, une sono. Donc, tout ça, ce sont des codes, en fait, pour d'autres, peut-être, pourraient être très paniquants. Pour moi, ils sont très rassurants et qui m'ont permis beaucoup de pouvoir être complètement moi-même et présente, etc. Et justement, à n'être plus dans un truc de contrôle. Et ouais. Après, ça ne veut pas dire que tu fais n'importe quoi, bien loin de là, tu fais quelque chose en conscience, quoi. Donc c'est un petit peu différent.
C'est cool quand même.
Ah oui, c'est très cool. Ouais.
Sans drogue. Sans drogue.
On sait pas, ah oui, ça. On sait pas.
Alors je confirme. Ce truc-là, sans drogue. Le reste, c'était plus compliqué, donc on sait pas. Mais disons que l'endroit de la scène, ça a toujours été un endroit qui justement était finalement
rassurant.
C'était le safe space, quoi.
Ouais. Mmh. Ah, c'est marrant. Ouais,
ouais, c'est drôle.
Parce qu'il y a beaucoup de gens, justement, d'artistes qui ont justement un problème avec le lâcher-prise, avec peut-être potentiellement le jugement. Mm-hmm. Toi
Dans tous les autres endroits du métier.
Oui.
Très compliqué.
D'accord.
À cet endroit-là,
c'est
non.
C'est ton truc, quoi. Mm. Ah, ça, c'est cool.
Ouais.
Je continue.
Bah, vivre, c'est génial. Hein,
ah, bah, j'imagine. Ouais, ouais. Il n'y a pas un tuto, il y a des livres. Bon, déjà, il faut être artiste.
Ouais, je sais pas. Ouais.
Voilà.
Il faut galérer dans le reste des autres, des ouais. autres endroits. Que ce soit vraiment
ça,
pas
ça veut
bien.
Dire que. Toi, avant de monter sur scène, il n'y a pas le trac, il n'y a pas l'appréhension.
Si, bien sûr.
Ok.
Si, d'ailleurs, ça fait partie du plaisir, quasi. Mais. Ça permet la concentration, ça permet le focus, le...
Ouais, t'es dans la zone, quoi.
Ouais. Et un truc comme ça, mais maintenant, c'est vraiment très clair. C'est-à-dire que change d'état, ça, c'est évident. Okay. Je le comprends comme ça, maintenant.
Et ça, tu l'as... T'as mis... Excuse-moi, je suis en train
vas-y.
De bousiller ton intro.
Oui.
Non, parce que ça m'intéresse beaucoup.
C'est très intéressant. J'ai même prévu un point là-dessus, mais continue, okay. En fait. Finalement, parlons-en maintenant, c'est bien.
Mais, et du coup, ça, tu l'as conscientisé quand? Dans ton évolution en tant qu'artiste
Assez tôt, en fait, parce qu'il y a eu plein d'étapes. C'est-à-dire que assez tôt, ce truc-là, ça a été hyper puissant. C'est-à-dire que l'endroit de lien que ça me permettait d'avoir avec les gens et avec moi-même, c'est-à-dire comme si c'était une sorte de chemin, tu sais, quand d'un coup t'as la lumière, quoi, tu sais, c'est par là.
Ouais.
et vers soi et vers les autres. Et ce truc-là, c'est arrivé très tôt. Et donc, en fait, c'était d'ailleurs un peu déstabilisant parce que le rapport au public, il était, il y avait des moments hyper intenses, alors que j'étais très jeune et toute débutante.
Ouais.
Et donc, en fait, ça m'a demandé de conscientiser parce que je me suis bien dit que c'était pas parce que j'étais. C'était impossible de penser que c'était parce que j'étais en train de faire un truc complètement ouf
ouais.
qu'il se passait ça. Ce que j'ai compris du coup et analysé, c'était que c'était parce que j'étais dans un endroit de. Et ça, je peux en parler pendant des heures. Donc,
vas-y.
Parce que j'étais dans un endroit de à la fois. Tellement présente à moi-même que je disparaissais et que du coup il y avait de la place pour le public.
D'accord.
De se projeter et c'est là où ils étaient où ils étaient touchés, c'est-à-dire
comme
que
la communion se fait.
Ouais, et c'est comme ça que eux ils ressentent des émotions et c'est pas moi qui donne les émotions, c'est leurs émotions qui sont que je fais résonner en fait. Tu
ouais,
vois
ouais,
la,
d'accord,
la
le dialectique.
Ouais, donc c'est un peu étrange comme truc. Donc en fait c'est comme si j'étais une cloche ou un truc un résonateur exactement. Et en fait ça quel que soit finalement mon rapport à la musique, il est vraiment finalement quasi que là-dessus. Et l'esthétique finalement importe quasi peu. Tout ce qu'il y a autour est quasi accessoire en fait. Ce qui se passe dans le moment du concert, pour moi, c'est ça. Et je pense que c'est... et c'est en tant qu'auditeur, c'est ça qu'on va chercher quand on va voir du spectacle vivant et de la musique en live.
Mais alors, du coup, donc ça, c'est ouf parce que c'est vraiment un délire de musicien de live, quoi.
Ouais.
Et la question, c'est que tes albums, toi, tu les fais en stud.
Ouais.
Du coup, comment tu fais pour avoir la vibe aussi?
Et je rajoute même que je t'ai entendu dire en interview que sur les deux premiers albums, sur Be Sensational et Radiate, tu... il n'y avait pas forcément à la composition ce dialogue.
Bah ouais,
enfin, c'est assez séparé le travail de studio et le travail de scène. Ce que tu as un peu revu, si j'ai bien compris, pour By Your Side quand même.
Mm-hmm.
Qui est un dialogue initial déjà à la base dans la réflexion un peu...
Ouais, où il y a le public et c'est étonnant, ciblé dès le départ.
Ouais, alors que c'est étonnant que tu disais que c'était au centre, au cœur de ta pratique, de ce que t'aimes, de ce que...
Ouais, ouais. Après, le studio, je l'ai découvert tard dans ma vie de musicienne. Et je l'ai découvert comme un nouvel espace de jeu, en fait.
Mais je veux dire, c'est, enfin, tu vois, l'atmosphère est pas la même. Il y a déjà personne, tu vois.
Ouais.
Les plafonds sont plus bas, il y a moins de,
ça résonne moins. Lumière.
Quoi, c'est...
Ouais, ouais. C'est vrai. Après, ça reste de la musique vraiment. C'est plus proche de la pratique musicale ou instrumentale, okay. On va dire. C'est le geste, la précision du geste, c'est tout ce travail-là, tu le fais en amont, avant le live. Le live supporte l'erreur.
C'est ce que je disais, mais il ne me croyait pas. Quand je disais qu'en live, tout le monde est bon.
Non, pas à ce point-là. Il pense que quel que soit le truc, le plus éclaté possible, en live, ça sera bien.
Moi, je suis sûr, je kifferai.
Et bah,
je suis bon public.
Je pense qu'il y a une magie du live, mais que quelqu'un de mauvais en live, tu le sens aussi quand même.
Ben c'est qu'en fait, le fait d'être mauvais en live, ça n'a rien à voir avec la technique. Ouais. Ça a à voir avec le fait de ne pas être là.
Ouais, c'est
donc
trop
en fait,
dans le calcul. Quoi,
dans le calcul, dans la pause, dans l'absence, être en train de penser à autre chose.
Ouais, alors qu'il faut
fait,
vraiment être focus.
Ça t'est déjà arrivé, malgré ce côté naturel pour toi?
Oui, bien sûr.
Ouais, donc tu as des concerts où tu ressors en disant « Ah !» J'étais
enfin, moi, je
là.
Sais que j'étais pas.
Ouais. Les gens, ils sont contents, mais toi, tu sais que.
Après,
pas
c'est
au top.
Pour ça que ça sert la technique aussi. Ça permet d'avoir
de compenser,
un.
Ouais.
D'avoir un.
Donc ça peut avoir sa place dans le live.
Un minimum syndical. Mais non, mais d'ailleurs, dans l'histoire de la musique, il y en a plein des choses comme ça. C'est-à-dire que les gens qui ont inventé le punk, etc., c'était pas des gens qui étaient techniques et qui savaient jouer de la musique, mais par contre, qui étaient des présences. Pur et indéniable et avec une nécessité
une
urgence à exprimer quelque chose. Donc en fait, des fois, ça, c'est bien meilleur qu'un musicien hyper bon qui s'ennuie sur scène. Hein.
Bon, je termine quand même.
Pardon.
Je suis désolé. Comme ça,
on
peut vraiment rentrer
bousiller son intro.
Non, je précisais quand même que tu as aussi beaucoup collaboré avec des gens très différents dans la musique. Je pense à Rachita, Thomas Porcheri, Christophe, Izia, DJ Pone même, figure-toi, Daz.
Attends, parce que je confonds toujours les deux.
DJ Pone, celui qui a bossé avec NTM, avec Swinkels et compagnie.
Ok, c'est pas
c'est celui
pas le
Pone de
la
FF.
Ok.
Absolument.
Ok, l'autre.
Faut pas confondre les Pones.
Ouais, différents Pones.
Bon, il y a plein d'autres collaborations. J'ajoute aussi que tu as eu quand même deux victoires de la musique en 2019 pour Radiate.
Pas mal quand même.
Ouais, pas mal. D'ailleurs, t'as un rapport un peu compliqué, j'ai l'impression, à ce prix, à la fois un peu flatté et en même temps, c'est pas si important.
Ah, ben si, c'est super.
Ouais.
Mais non, c'est vachement bien. Après, ben non, je suis hyper contente. Sur le moment, ça m'a fait complètement bugger. J'ai vraiment. Ça m'a fait très peur. En fait.
Ça y est, je suis mainstream.
Non, ben non, parce que c'est vraiment pas ça que ça fait, que ça veut dire en fait, en vrai, parce qu'il y a plein de trucs mainstream qui sont pas du tout couronnés de quoi que ce soit.
Non, c'est la reconnaissance des pairs de l'industrie.
Ouais, c'est ça, de l'industrie. C'est donc ça, ouais, c'est moi, ça, j'étais hyper flattée et hyper heureuse. Après, moi, j'ai cru, en tout cas, j'ai flippé que ça devienne à l'époque, que ça devienne un gros truc. Et ça s'est pas du tout passé. Et donc, j'ai bien eu raison de flipper pour rien. Et du coup, en fait.
Parce que ouais, ça n'a pas été suivi de.
Non, ça rien. En ce qui me concerne, ça n'a.
D'invitation sur
Mais sans doute parce que j'en avais pas hyper. Oui, parce que ça me faisait suffisamment peur pour que je freine un petit peu.
Ouais. Ce que je vous propose, c'est qu'on discute en gros de trois éléments. Un premier qu'on va vite traiter parce que je sais que c'est un truc, c'est par rapport à ta formation initiale. Tu trouves qu'on t'a un peu trop renvoyé à ça dans un premier temps, le fait que t'aies fait le conservatoire, t'es passé par le Conservatoire National Supérieur de Musique, puis à la Royal Academy de Londres.
Ah oui.
Ensuite.
Regardez ça marche toujours.
C'est toujours de l'effet.
Toutes ces
Londres.
Années après.
Et ça marche. Hein.
Ça fait toujours son petit effet.
Ouais, c'est sympa.
Alors que j'y allais jamais.
Non, c'est pas grave.
J'ai même pas mon diplôme, les mecs.
Mais ce qu'on peut faire, c'est sans s'arrêter trop longtemps, c'est peut-être juste ce que t'en tires comme enseignement, ce qui a été utile d'une certaine manière, peut-être encore aujourd'hui.
Ça, c'est, il y a un truc, mais en fait, finalement, c'est plus même mes premières années quand j'étais petite, quand je faisais du violoncelle, etc. On en parlait juste un petit peu avant avec mon attaché de presse. Ça, pour moi, ça permet d'apprendre à travailler. C'est-à-dire que face à une difficulté musicale, j'ai des outils pour la surmonter si nécessaire.
Mmh. Tu peux nous donner des exemples de difficultés auxquelles tu peux te confronter? Ces ressources sont là pour t'aider?
Il y a des difficultés d'exécution, tout simplement. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je suis chanteuse, il peut y avoir des choses compliquées à chanter, et je sais comment déconstruire une phrase musicale pour la travailler, pour réussir à la chanter convenablement. Donc, il y a ça. Il y a avoir un vocabulaire musical qui permet de collaborer avec des musiciens de façon plus...
Se comprendre.
En tout cas, après, maintenant, les musiciens de ma génération, parce que c'est vrai qu'il y a, dans les plus jeunes générations si on n'a pas le solfège en commun, par exemple, c'est vrai que on a besoin d'un vocabulaire commun entre musiciens pour pouvoir communiquer. Le solfège, ça a souvent été ça. Le solfège, ou en tout cas les notes de musique et les accords, l'harmonie, etc., ça fait partie des choses. Maintenant, c'est parfois plus des logiciels, etc., et des notions d'ordi et compagnie. Mais c'est la même chose, en fait. C'est le même système. C'est un vocabulaire commun.
L'interface va être différente.
Exactement. Mais c'est le même. Et ça sert exactement à la même chose. Gagner du temps, parler de la même chose, se comprendre. Et là où la musique peut être tellement. C'est tellement difficile à décrire, vu l'abstraction même du média, qu'avoir un vocabulaire commun, ça fait gagner un temps fou. Et puis après, ça permet aussi de savoir. C'est principalement ces choses-là. Après, dans mon expérience personnelle, il y a un truc de travail en groupe. Qu'est-ce qui permet de faire travailler son propre groupe, de travailler un spectacle, de travailler le live, etc. Qui est aussi un truc important à. En tout cas, moi, qui fait partie des choses qui sont importantes pour moi, du coup, de pouvoir réussir à savoir comment mener un groupe pour arriver là où j'ai envie qu'on aille.
Mais c'est bien parce que c'est pas tous les artistes qui ont toutes les cases cochées, tu sais, de se dire la musique que je travaille là, il faut que je pense aussi au live. Il y en a beaucoup qui seraient très contents à faire que de la musique de studio et à rester dans leur bulle et créer en fait, et qui ont peut-être un peu plus de difficultés à défendre leurs morceaux. Déjà le fait qu'on dise défendre sa musique, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une opposition, tu vois, alors qu'en fait c'est juste la suite
c'est
logique.
C'est un terrain hostile.
Ouais.
Ça, je pense que c'est là où je suis un peu à l'ancienne, c'est que c'est moi, j'ai fait dans le sens live et ensuite studio. Et ça, c'est vrai que...
Normalement, on le fait dans le sens...
Normalement, en fait...
C'est-à-dire que toi, t'es arrivé...
Normalement, on fait ça. Maintenant, on fait un peu l'inverse.
Ah, non, ouais, ok.
Historiquement, c'est vrai que tu commences par aller faire les petits bars, les machins comme ça, etc.
Oui,
tu fais des concerts. Après, t'enregistres un disque. Et après, tu refais des concerts, t'enregistres un disque.
C'est-à-dire que la taille de la salle, pour toi... ça n'a pas trop d'importance que tu sois dans un café-concert ou...
Ouais, t'as vécu une évolution quand
bien
même.
Sûr. Ouais, bien sûr, ah bah ouais, j'ai fait toutes sortes de trucs. Vraiment.
Mais notamment quand tu étais interprète de jazz après le conservatoire.
Ouais, ça. Et puis même après, au début, quand j'ai commencé à faire la musique, on faisait des micro-festivals avec des micro-scènes, parfois dans des cafés, parfois... J'ai à peu près tout fait quand même, je pense, là, en termes de...
Formateur ?
Ah mais oui, mais c'est génial. Enfin, moi, j'adore ça, enfin, de toute manière. Donc non, moi, je trouve que c'est hyper important. Et puis, ça... Et puis, ouais, ça permet une compréhension de la musique et du métier, qui est une certaine humilité aussi, malgré tout.
Parce qu'on croise des gens forts.
Ben, non, c'est parce que c'est quand même parce qu'on passe d'un extrême à l'autre constamment.
Quels extrêmes ?
Ben, d'une grosse scène à une toute petite, d'un public à don, enfin, qui te connaît pas, en fait, tu te retrouves tout le temps dans plein de configurations différentes et donc auxquelles il faut s'adapter. Et il y a, enfin, en tout cas, moi, mon expérience, il y a aucune façon, enfin, y a rien qui se ressemble d'un jour sur l'autre, quoi. Enfin, quasi.
J'ai une autre question qui concerne cette fois pas le live, mais on comprend ce que tu as tiré de ta formation. Est-ce qu'il n'y a pas quand même aussi des résidus, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais d'un point de vue esthétique dans la musique que tu fais? Parce que tu as forcément été, tu as grandi en ayant cette pratique
possible musicale,
tu as découvert des choses, j'imagine, tu as découvert des répertoires, etc., et qui t'ont marqué, forcément.
Oui, c'est possible. C'est complètement possible. À quel niveau je serais bien incapable de le dire. Ce qui me vient là tout de suite, c'est le rapport entre le violoncelle et le chant. Par exemple, moi, quand je chante, je vibre pas tout le temps. C'est-à-dire que j'aime bien choisir le moment où je vais faire une ornementation vocale. Et j'aime bien aussi avoir une voix toute droite. C'est-à-dire, on n'entend pas tout le temps ça. Et avec peu d'artifice. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ça au début. Et ça, je pense que ça vient de ma pratique du violoncelle, en direct.
Donc c'est parce que tu cherches l'efficacité, la simplicité.
Non, c'est comme si tu cherchais un son tout droit, quoi. Une sorte de... un son plutôt qu'un sens ou un mot ou un langage. Et le rapport au texte, il est venu plus tard. Et donc, du coup, à l'interprétation plus quasi théâtrale. Entre
D'accord.
Guillemets. Est-ce qu'on peut...
Ah, c'est intéressant, ça.
Absolument.
C'est un peu genre Néo qui voit la matrice. T'as pas besoin de tout ce qu'il y a autour. Ah, c'est... Ouais. Elle arrête les balles.
Est-ce que avant qu'on passe à la seconde partie, enfin la deuxième partie, et qu'on écoute ta musique plus personnelle entre guillemets, est-ce qu'il y a quand même des choses que de cette époque-là qu'on peut s'écouter, qui sont disponibles sur les plateformes? Par exemple, je suis tombé sur l'EP The Ballad of Camden Town, mais j'ai l'impression est plus presque un EP de transition avec ce que tu vas faire.
Ah oui,
après.
C'était les premiers trucs que je faisais toute seule, ça déjà.
Est-ce que de l'époque avant, quand tu étais vraiment purement interprète, des choses auxquelles tu es encore attaché aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait s'écouter quelque chose?
Ouais, il y a Vincent Courtois, qui est un violoncelliste avec qui j'ai joué récemment là, que j'ai invité à jouer avec moi à la Philharmonie pour l'hommage à Joni Mitchell.
Ouais.
Avec qui j'ai joué pendant... Je crois que c'est celui avec lequel j'ai joué le plus longtemps. C'était... Quand on dit que je faisais du jazz, en fait, c'était pas le jazz dans le sens traditionnel de la musique afro-américaine qu'on connaît. C'est la version de musique improvisée qui est plus proche de la musique contemporaine qui a été développée en Europe dans les années 70 avec le free jazz, etc.
Parce que toi, c'est plutôt le chant lyrique, ta formation, si je dis pas de bêtises.
Au tout début, oui. Ouais. Après, c'est vrai que j'ai fait... je suis passée à autre chose, mais et Vincent Courtois, donc qui est violoncelliste, on faisait donc de la musique improvisée, mais on chantait aussi des chansons, plus que des standards d'ailleurs, pas du tout de standards de jazz. Et c'est avec lui que j'ai enregistré une de mes premières chansons qui s'appelle I Carry Your Heart, que j'avais écrit sur un poème de Edward Sling Cummings. Et voilà, ça, on peut écouter ça si tu veux, avec ma petite voix de jeune fille.
Écoutons ça.
I carry your heart with me. I carry it
is done by only me's you're doing, my darling. I fear no fate, for you are my fate, my sweet, and I want no world, for beautiful you are my word, my true, and it's you are.
C'est très beau.
Ils vont pleurer là, je le vois.
Ah, franchement, non, mais ça donne envie de, tu sais, d'investir dans un gros système IFI parce que t'as l'impression qu'elle chante vraiment là, là, dans l'oreille. Ça, c'est de quelle année ça?
Je sais pas.
Est-ce que je peux le voir là? Je suis pas certain.
En tout cas, c'est une chanson que j'ai écrite pour mon prix au conservatoire.
2016
Non. C'est bien avant, c'est 2005.
2005 ouais. Ah ouais, ok. T'étais pas née.
Toute petite.
T'étais pas née, bien sûr.
Ok.
Ce que je vous propose, maintenant qu'on a, on comprend d'où tu parles, d'où tu viens, c'est de...
D'où tu parles, camarade.
Absolument. c'est de parler vraiment du cœur, de ce qui nous intéresse, à savoir de ce que tu vas développer, enfin ton propre répertoire, tout simplement. Et ça commence donc... Alors, j'ai appris, chose incroyable, je n'étais pas au courant, que ça a commencé même dans des espèces d'espace de transition que tu as connu, avec un groupe de rock-prog, un peu post-rock. C'est quoi cette histoire?
Eh ben, au départ, c'était ça, j'étais partie pour faire ça, moi, faire beaucoup de bruit, essayer de crier le plus fort que je pouvais, jouer de la basse, donc c'était basse, batterie et guitare. Et comme ça arrive parfois dans ce métier, j'ai rencontré un tourneur qui m'a dit « J'aime pas ton groupe, mais toi... »
Je t'aime bien. Je vais faire de toi une star.
Exactement, c'est toujours mon tourneur. Hein, donc Et j'ai dit « D'accord ». Et j'ai lâché lâchement. Mon ouais, groupe.
Ça s'est passé comment ça du coup
Ils t'en veulent encore aujourd'hui?
Non. Bah non, ça s'est passé il y a bien longtemps déjà, je ne saurais pas te dire quand, mais c'était... C'est passé assez naturellement. Lui, il aimait vraiment pas ça, le rock prog.
Ouais.
Et moi, j'aime toujours ça, donc ça se trouve, okay. J'en refais.
Avec le groupe.
C'était pas une espèce de réponse pour aller à l'encontre de ce que tu faisais avant, non. C'était pas plus comme ça.
Non, c'était pas une crise d'ado, non, ouais. Je crois pas.
Non, parce que tu disais, j'avais envie de crier, il y avait un truc presque de libération.
Il fallait que ça sorte de toute manière, mais ça s'est passé aussi par l'écriture, en fait. Et d'ailleurs, le moment avec ce groupe-là, qui s'appelait Linak, qui veut dire forteresse en finnois, donc j'étais bien,
ouais, okay.
Comme ça. J'étais pendant, je crois, un an avec ce groupe-là dans un état d'extase du fait d'écrire ma propre musique pour la première fois. Mmh. Ça faisait déjà des années et des années que je faisais de la musique et j'avais jamais été dans cet état-là.
Ah, c'était que l'interprétation que tu faisais jusque-là.
Et ma vie a changé à partir du moment où j'ai écrit ma musique, si minimale et si basique soit-elle.
Ouais.
En fait, tout a changé.
Et ce groupe-là, du coup, tu l'avais rencontré quoi, sur audition ou...
Non, c'était des potes à moi avec qui je faisais d'autres groupes.
Ok. Toujours être dans plein de groupes et plein de formations.
À l'époque, quand je faisais du jazz et de la musique improvisée, on en parlait avec un vieux copain. Il n'y a pas longtemps, c'était moi je faisais 5 concerts par semaine avec 4-5 groupes différents.
Ah ouais, mmh. Ok.
5 avec des répertoires différents à chaque fois, chaque soir, etc. Mmh. Donc c'était quand même assez particulier. Hein.
Mmh. Et il y avait cette notion de.
Ça, c'est formateur, je veux dire.
Ouais, bah ouais, j'imagine, ouais. Mais du coup, t'avais cette notion déjà de. Il faudrait que je trouve. Mon son, ou en tout cas mon...
Alors mon son, oui, parce que en fait, c'était à l'époque, c'était ça la recherche en jazz. C'est-à-dire que moi, mes potes saxophonistes, ils cherchaient leur son. Mmh. Donc moi, je cherchais mon son au chant.
D'accord.
Mais du son, c'était pas...
Oui, c'était pas l'identité...
C'était mon son de voix. Donc, mais comme un saxophoniste ou un trompettiste pouvait chercher... Donc c'était un peu étrange.
Et avec un rapport quand même intime ou quelque chose de détaché un peu de soi?
Là où c'était détaché de fait, c'était que c'était pas ma musique. Mmh. Donc, mais après, Moi, je savais pas faire de la musique et je sais toujours pas d'ailleurs faire de la musique autrement qu'en étant complètement à fond. Mmh. Donc c'était donc à la fois c'était pas ma musique et donc c'était pas mon expression à moi et donc j'étais au service de la musique d'autres personnes, ce qui était et de personnes hyper talentueuses qui étaient, enfin c'était chambé. Mais et j'ai appris énormément à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'à un moment donné. Un truc d'âge peut-être, j'étais que avec des gens plus vieux que moi, j'étais que avec des mecs, j'étais que dans un... Enfin, tout un tas de choses qui ont fait qu'à un moment donné, ça collait plus avec la personne que j'étais et le frottement, il était, ouais. c'était too much, quoi. Il fallait...
Insupportable.
Physiquement même insupportable. Je pouvais même plus faire bien ce qu'on me demandait de faire.
Ouais,
donc, okay. À un moment donné, il a fallu... Vraiment, c'était physique. Il a fallu que je... Non seulement que j'arrête tous ces groupes-là dans lesquels je chantais, et que je me pose un peu la question de ce que moi je voulais faire. Mais c'était super.
Arrive justement en 2015 Be Sensational. Alors, il y a un EP juste avant, si je ne dis pas de bêtises, où il y a quelques titres qu'on retrouve d'ailleurs
sur de l'album.
Ouais, de l'album. On va s'écouter quelques morceaux. Est-ce que toi d'ailleurs, il y en a que tu retiens encore de cet album qui sont particulièrement chers
On va voir si ça matche avec les.
Moi j'en ai choisi quelques-uns, mais Spotify. Je préfère quand même. Et en plus, effectivement, si le nombre d'écoutes.
Ouais. Non, ça c'est sûr que ça ne matche pas.
Ouais.
Bah, les gros titres de cet album, c'est War et Look at Them.
Ouais.
J'aime beaucoup War parce que c'est le tout premier qu'on a sorti avant les trans en 2014. Et après, bah non, bah, moi je les aime tous, moi, les morceaux.
Bon, on s'écoute War is Coming alors, déjà pour commencer.
We're stuck here with our many pains, with our letters, hearts once open and now closing down. They wanna get even, want the trigger, one threat is smearing all over me. No one to notice, recognize me, no call for an all, one can wash it all away. For here we must be, for here we must stay. Always, I try always to disappear, it's not enough to die.
Ça change,
hein,
de ce qu'on a entendu juste avant.
C'est, si j'ai bien compris, ça naît aussi d'une rencontre, cet album.
Oui, avec Dan Levy. Hein.
Ouais. Tu nous racontes rapidement.
Je faisais grâce à mon amie Marielle Chatin qui jouait dans The Do à l'époque et qui jouait avec moi et on écumait toutes les routes de France en duo, donc toutes les salles et tous les cafés et etc. C'est elle qui m'a présenté Dan et Olivia de The Do et c'est comme ça que j'ai fait leur première partie. Dan m'a proposé de faire un disque. Je pense que j'ai fait un peu non. Je flippais, j'avais peur. Et puis à un moment donné, j'ai fini par dire oui. Et ça, c'était le premier morceau qu'on a fait.
Moi, je suis toujours intéressé par ce dialogue, cette collaboration entre un réalisateur sur un album, un producteur et l'artiste. En l'occurrence, vous, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il apportait? Qu'est-ce que toi t'apportais? Comment le dialogue il s'est fait principalement? Tu partais de maquettes, par exemple?
Oui, après, moi, j'ai toujours fait des maquettes. Ça change avec les années, hein. Avec les expériences. C'était la toute première fois que je faisais ça, enfin quasi. Pour moi, les producteurs, ils ont, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai toujours vécu. C'est des gens qui ont des visions de toi pour toi. Là où des fois pour soi, en tout cas moi, c'est mon cas, c'est difficile de les avoir. C'est-à-dire que toi, t'es un peu le nez dans ta vie, dans ce que tu es en train de produire, dans ce que tu... Et en fait, des fois, c'est bien d'avoir quelqu'un qui te dise, moi, je te vois là, je te vois comme ça. Dan, il m'a dit, on faisait l'album, il me disait, je lui sortais balade sur balade sur balade, il me dit, mais non, je te vois tu vas jouer devant sur des grosses scènes avec du monde devant. En festival, tu peux pas jouer que des balades parce qu'ils sont debout toute la journée, il faut qu'ils puissent bouger. C'est aussi simple que ça. Donc en fait, tu vas m'écrire des morceaux up-tempo et basta. Mmh. Et c'est comme ça que ça s'est passé en fait, en vrai. C'est-à-dire que il avait cette vision-là et qui s'est révélée être juste, c'est-à-dire pas tant dans le fait que de jouer devant du monde, mais dans le fait que ça allait me plaire. Et à l'époque, quand il m'a sorti ça, j'étais certainement pas. J'étais là, et en fait, c'est le moment où j'ai, avec cet album, on s'est mis à faire des grosses scènes. C'était, c'est comme si je découvrais le truc qui était le truc que j'attendais depuis toujours, quoi. C'était juste merveilleux. Est tellement différent de toute mon expérience précédente de concert. Pourtant, j'en avais fait plein. Et là, c'était encore autre chose et c'était encore plus fort et encore une autre façon de faire ce métier-là. Bref. Et Dan, il a eu cette vision-là. Et c'est vrai que, une fois qu'il avait cette vision-là, et c'est aussi le cas de tous les gens avec qui les autres personnes avec qui j'ai travaillé, en fait, il tient le cap. Et moi, mon boulot, c'était de produire la musique qui nous permettait à nous deux, lui et moi, et la rencontre qu'il y avait entre nous, de produire ce qui était nécessaire pour arriver là, quoi.
Et il n'y a pas eu de doute là-dessus, sur ce cheminement, en mode « mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire ?» Est-ce que...
Ah, mais des doutes, il n'y a que ça, des doutes.
Surtout, j'ai envie de dire.
Mais des doutes
non, mais là,
plus,
je te raconte ça 10 ans plus tard, ça n'a rien à voir.
Tu l'as digéré.
Je l'ai grave digéré.
Tu sais, t'as un moment où tu veux créer ton propre répertoire. Et en même temps, il va falloir que tu collabores avec des gens. Est-ce qu'il y a eu la peur d'une forme de dépossession? Est-ce que...
Ah, évidemment. D'ailleurs, ça me prenait des semaines à lui envoyer une maquette. Je n'étais que peur. J'étais une. D'ailleurs, je pense que c'était difficile pour lui. C'est-à-dire que il fallait qu'il sorte les morceaux. Enfin, moi, il fallait que je les sorte de moi-même. Lui, il fallait.
Qu'il aille les chercher. Et
des fois, il me disait non, c'est pas assez bien. Donc je retournais bosser, etc. Mais il détestait d'avoir d'ailleurs ce rôle-là parce que c'était pas un rôle sympa en tout cas.
Ouais, il te bride ou il a l'impression de te casser. Ou...
Et en fait, à l'époque, en tout cas moi, la personne que j'étais, je dis pas que c'est toujours comme ça qu'il faut que ça se passe, mais en tout cas moi à l'époque, évidemment c'était pas facile mais c'est pas facile de faire un disque et c'est pas facile de faire en tout cas pour moi c'était pas un truc facile de faire un premier disque étant la personne que je suis ou que j'étais à l'époque. C'était vraiment un truc hyper violent à m'infliger et en fait il fallait quelqu'un, une forte tête comme lui aussi pour que, et je l'ai pas choisi par hasard non plus en fait, même si c'était inconscient à cet endroit là Et il fallait quelqu'un comme ça qui soit qui soit sûr de son coup, en tout cas qui ait des avis tranchés sur les choses aussi pour me permettre de d'y aller quoi en fait.
Ouais, c'est
mais c'est pas confortable. Hein.
Non, mais j'imagine bien. Ouais. Mais c'est surtout qu'en fait, quand ça arrive, souvent on entend parler. Après, c'est peut-être aussi une romantisation de ces histoires-là, mais tu sais, c'est toujours le manager qui arrive et qui veut te coller une couleur qui est pas la tienne et du coup tu le vis mal, etc. Alors que là, pour le coup, c'était quelque chose...
Ah oui, non, mais d'ailleurs, Dan, je sais pas s'il se rappelle, mais je pense que si, c'est sûr qu'il se rappelle de ça, mais lui, moi j'étais dans le canapé, j'écoutais, j'étais là, ah non, pas ça, ça, non. Et donc pour lui, c'était infernal, c'est-à-dire qu'il est en processus de création, t'as la meuf derrière qui dit... Non, et en fait c'est donc le moindre truc qu'il faisait et donc après t'apprends aussi à laisser aussi les gens aller dans un sens même qui n'est pas forcément le tien au départ.
J'ai de la place.
Juste parce qu'en fait la créativité, si tu peux pas la laisser filer, en fait, c'est contre-productif. Mais moi, par exemple, quand on a fait le disque ensemble, c'était la première fois vraiment que je faisais ça et c'était. Et le moindre truc, justement, de dépossession, où j'avais l'impression de ne pas reconnaître mon morceau, de machin, etc. Enfin, c'était...
Ouais,
je pense que j'étais... mais bon, tant bien que mal. Et au final, très bien. On s'en est bien sortis.
En parlant de s'en sortir, on écoute un autre extrait, quand même, de l'album.
Bah, vas-y, choisis.
Moi, j'avais mis de côté soit Missy Tall, soit Be Sensational.
Missy Tall.
Allez, c'est parti.
Bye.
comment ça se passait, les maquettes à la base? T'avais un petit home studio
Moi, j'ai toujours bossé sur Pro Tools. Ouais. Parce que j'ai commencé à m'en servir pour faire des musiques de théâtre. Et donc, du coup, j'ai toujours fait mes maquettes sur Pro Tools.
À la maison ou en studio, tu te déplaçais? À la maison. Mmh. Petite carte son, un micro. Et,
Là, c'est le moment geek, là.
Ouais.
C'est okay. Le moment matos.
Non, mais t'avais quoi, un setup minimaliste?
Ah ouais, hyper minimaliste.
Un petit clavier maître, peut-être.
Qui rentre dans un sac à dos et que tu peux emmener partout. J'en ai un qui rentre dans le sac à dos, puis j'en ai un pour la maison, maintenant. Mmh. Parce que... n'est pas un petit stade supérieur. Ouais.
Oui, parce que tu continues à tout composer, tu maquettes tout à la base, toute seule. Mmh. Et globalement, c'est quoi un peu ta façon de travailler? Est-ce qu'il y a des normes? Est-ce que déjà tu t'astreins, par exemple, à une forme de discipline? Tous les jours, tu essaies un peu de faire?
Non, certainement pas. Non. Non, c'est... Enfin, je suis beaucoup plus instinctif que ça. Alors... le truc le plus difficile pour moi, c'est les textes. Donc, j'écris ça, des textes. J'essaye, dès que ça me prend, d'y aller. J'écris beaucoup, sans me juger, parce que comme j'ai du mal, le mieux, c'est de déconnecter un peu le troisième œil, d'y aller. Et ensuite, bon là, en ce moment, je ne suis pas en phase d'écriture, mais ces dernières années, à chaque fois... En parallèle de ça, il y a des moments où je garde du temps pour écrire. Et souvent, ça monte, tu sais, c'est comme si ça va être le bon moment, ça va être le moment bientôt de se mettre à écrire. C'est comme si tu fais plein de réserves, de plein de choses, et puis à un moment donné, faut y aller.
Tu saurais pourquoi? C'est les expériences de vie à côté qui nourrissent ça.
Moi, en tout cas, c'est le reste, n'est pas du travail. Enfin, c'est une autre forme. C'est comme de la collecte. Enfin, tu vois, c'est noter, observer. Enfin, par exemple, en ce moment, je suis dans une phase d'observation. C'est-à-dire, je me vois regarder les gens ou regarder les. Ou me dire, ah tiens, enfin, repérer un regard ou un machin, whatever. Des petites choses ou alors ça, noter des trucs que je lis ou des. Donc, il y a différentes phases comme ça. Et puis après, il y a des phases de prod où j'écris, où je produis, des fois même juste de la musique. Et après, il y a aussi les phases où j'ouvre mon cahier et puis je vois ce que j'ai dans mon ordi. Et puis.
Ouais,
c'est-à-dire en croisant les doigts que...
T'écris pas la musique avec un texte en tête?
Des fois, si j'ai un texte...
Souvent, le texte arrive avant, quand même?
C'est en parallèle.
Ouais, ça arrive en même temps, en fait. Mais...
Je peux avoir un bout de texte et commencer un truc avec une prod que j'ai commencé. Et derrière, terminer le texte, ou en cherchant d'autres bouts de trucs, faire coller des... T'as compris?
Ouais, à peu près. Moi, je capte. Mais la question que j'ai, c'est une question un peu... J'ai une question ministère de la Culture, un petit peu.
Vas-y, pour les subventions.
Tu chantes en anglais?
I do.
Est-ce que tu chantes en français aussi?
Mais oui. Il faut se tenir au courant, là,
Moi, je suis au courant de rien. J'ai même pas le temps de m'asseoir sur ma diarrhée et on enregistre.
Notamment sur le dernier album, By Your Side.
Ah voilà, donc ok. Bah, c'est
By
bien.
Your Side,
mais tu as raison, sur le premier album, il n'y a pas du tout de paroles en français. Et sur Radiate non plus, il n'y a pas de bêtises.
Et voilà.
Il y avait quand même un peu raison.
Non, il n'y en a pas tant que ça. À ce jour, il y en a.
C'est à partir de R, le P.
4 morceaux en français.
Ouais,
effectivement, le ratio est pas ouf.
Okay. Mais va au bout de ta question.
Non, mais alors la question de base, c'est.
Pourquoi?
L'écriture en anglais naturelle, travail.
Facilité?
Ouais. Bilinguisme? Fluently?
Ah, j'ai beaucoup répondu à ça. Pudeur.
Ah. C'est marrant ça parce que.
Mais ça, c'est un classique. Hein.
Donc, c'est la peur de se mettre à nu avec des textes que tes concitoyens peuvent comprendre from scratch, mais d'un autre côté.
Et donc, par exemple, si je vais les chanter en Angleterre.
Ah ouais.
Ah merde.
C'est-à-dire que la Jeanne.
Tout est foutu, il faut vite le refaire en français.
Jeanne Adède en Angleterre, ça doit être quoi? Ça doit être Jane Ajoutée.
Jane Ajoutée.
Ok, donc il y a. Ouais, c'est un peu.
Ouais, au début, c'était beaucoup ça. Ouais. Et puis, il y a aussi, évidemment, le fait qu'on ne chante pas de la même manière en français et en anglais.
Bien sûr. Mmh.
Et il se trouve que le chant, si vous avez suivi depuis le début, c'est une grosse partie de ma pratique musicale. Et du coup, l'endroit de mon plaisir de chant. C'est un endroit que je protège énormément. Et c'est vrai qu'en anglais, je fais plein d'autres choses que je ne fais pas en français. Enfin, que j'ai du plus de mal, pour le moment en tout cas, à faire en français. Mais c'est en train d'arriver.
Ouais. Oui, parce qu'en fait, à un moment donné, on pouvait entendre, par exemple, que c'était compliqué de chanter en français parce que c'est moins mélodieux ou ça se marie moins à certains.
Dans certaines esthétiques, c'est vrai qu'on considère que les sonorités de la langue anglaise sont inhérentes presque à cette esthétique parfois.
Mais en fait, en vrai, il y a plein de choses. C'est-à-dire que les langues anglaises ont un placement physique dans la bouche, etc., qui font que c'est très proche de la voix chantée. De fait, donc en fait, il y a un truc qui est très, très naturel avec cette langue-là. Et après, il y a un truc culturel en France aussi, c'est-à-dire que les chanteuses à voix ou les chanteurs en France, c'est considéré comme étant un peu vulgaire.
Oh.
Oh.
Vraiment ?
Mais je crois bien.
Tu penses aux chanteurs un peu démonstratifs, etc.
Ouais, les gens qui ont des voix et qui chantent avec des grandes voix ou des etc. C'est comme c'est le corps, le sensible, le machin, etc. Dans ce pays, il y a un endroit où c'est.
C'est-à-dire qu'on n'y voit pas l'élégance du parler, des choses comme ça, un peu plus.
Ouais, il y a une sorte de résistance à ce plaisir-là qui est assez simple et assez immédiat et en tout cas compréhensible partout sur cette planète, à savoir le chant et l'expression musicale via la voix. En France, il y a une petite résistance à ce truc-là. Après, c'est qui est une sorte de snobisme ou de je sais pas quoi, hein, j'en sais rien.
Ah bah c'est la France, on est habitué.
Moi, je trouve qu'on peut le voir ce dont elle parle, Jeanne, dans le R&B par exemple, puisque en France, on n'a pas le même rapport au R&B qu'aux États-Unis, et je pense que ça passe aussi par le côté démonstratif de la voix, qui est un truc aussi un peu comme qui se joue. Tu sais, où vite en France, on peut trouver ridicule quelqu'un qui en fait trop. Et d'ailleurs, moi, ça peut m'arriver de me dire là, on fait trop. Mais oui, parfois on en fait vraiment trop aussi. je pense, mais
ouais. Après, moi, je crois que il y a aussi un rapport au corps, à la danse, mais je crois au corps en fait, en vrai.
Alors moi, j'avais posé à la base la question au ministère de la Culture. Oui. Non, maintenant, je vais poser la question au ministère des Finances. Le chant en anglais.
Ouais.
Est-ce que c'est pas aussi un moyen d'éventuellement être famous in Japan? Parce qu'on sait que les Français sont régulièrement, en tout cas quand ils essayent, beaucoup d'artistes français finalement, ont une reconnaissance d'abord à l'étranger.
Ça arrive.
Avant de revenir en terrain conquis avec des gens qui disent PTDR, t'es qui, tu vois.
Est-ce qu'elle avait pas tout planifié?
Et je me dis, ouais, effectivement, est-ce que.
D'où ma grosse carrière aux États-Unis.
Non, mais je demande alors.
Là,
on t'a vu pour le Super Bowl, hein, fais pas genre comme
ça. Ouais. Là, c'est vrai que mon plan diabolique a fonctionné.
Non, mais du coup, c'est vrai que t'es naturellement prête pour l'export. Tu vois, donc est-ce que c'est
attends que ça.
est-ce que c'est quelque chose que tu pensais toi développer? Est-ce que c'est un truc où tu dis pourquoi pas?
Non, je te dis au contraire. Oui, bien sûr, mais au contraire, je flippe si on comprenait. À l'époque, je flippais si on comprenait ce que je racontais. Donc non, c'était pas vraiment un calcul dans ce sens-là.
Okay.
Mais ouais. Et d'ailleurs, si c'en était un, ça a pas marché du tout.
Ok. Ouais. Mais après.
Non, la vie n'est pas terminée.
Tu chantes en anglais, c'est. Tu peux.
Parce qu'elle commence à parler en français maintenant. Elle fait tout à l'envers.
Oui, non, mais
elle
je sais. Rien. J'ai rien compris au business. De toute manière, ça, je crois que c'est clair.
ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être quand même parler un peu de Radiate. Parce que. Même si d'ailleurs, on l'a pas dit, mais avec Be Sensational, tu es nominé à une victoire de la musique.
Révélation.
Bon, tu as pas le prix, mais ça arrive sur l'album d'après de toute façon, pas sur Révélation, mais avec Radiate. Il y a une intention initiale quand tu te lances dans ce projet, dans ce qui se deviendra cet album-là. Par rapport à Be Sensational, est-ce que tu t'es dit, ok, j'ai fait ça, vers où je peux aller? Il y a eu une réflexion ou ça a été plus naturel que ça?
En fait, c'est marrant ce métier quand même. Je me disais tout à l'heure en commençant cette conversation, c'est que on se retrouve quand même à analyser ce qu'on a fait, en fait, à regarder en arrière sur des trucs sur lesquels, en fait, sur le moment tu traces en fait.
Il y a zéro question.
Et non, en fait, moi, et après, il y a peut-être des gens qui fonctionnent comme ça avec des plans et des c'est vrai que moi, j'ai jamais fonctionné comme ça. Pas comme ça, en tout cas. Sur Radiate, c'était, l'idée, c'était de faire ça avec deux amis à moi, Frédéric Soulard et Marc Kerr de Maestro, qui était un groupe d'électro, signé chez Tiger Sushi à l'époque. Et de revenir à un truc avec des potes. Qui eux étaient des rythmiciens et des mecs branchés synthé, etc. Enfin, qui avaient une sorte de rapport au son que j'avais envie de continuer de développer. Donc ça, c'était à peu près le seul truc, et j'avais envie de chanter un peu plus aussi. Si je me rappelle bien, c'est à peu près les deux seuls plans diaboliques que j'ai eu à l'époque.
Mais c'est pas rien, l'idée de faire appel à des amis qui sont quand même dans la musique électronique, parce que ça se reflète dans tout l'album.
C'est bien sûr.
On le retrouvait évidemment un peu sur Bias International, mais là...
Là, c'est très clair.
Là, c'est très clair. Je trouve d'ailleurs que l'album se tient du début à la fin. Il est assez impressionnant pour ça. D'ailleurs, je suis embêté, parce que regarde combien j'ai mis de côté de morceaux.
T'as mis tous les morceaux.
Il va falloir quasiment, parce que je trouve vraiment bien cet album. Mais oui, il y a un son quand même qui a été trouvé et qui est exploiter, explorer.
Ouais. D'ailleurs, c'était assez cool à faire, parce qu'on l'a fait, on était en Belgique, à Bruxelles, dans un studio qui était tout neuf, qui s'appelle La Savonnerie, et qui est à Molenbeek. Et du coup, il y avait une sorte d'ambiance, on passait que 5 jours, on a fait quoi, 4 sessions de 5 jours à l'époque, à bosser là-bas. Donc on y dormait et on y travaillait. Et il y avait une sorte d'urgence comme ça, parce que le budget, c'était ça.
Et rien d'autre.
Ouais. Et c'était. Et franchement, j'avais préparé mes morceaux, évidemment. Donc mes maquettes, etc. Puis après, on est parti en studio. Et il y avait un truc comme ça, très ramassé et très fluide. Là où le premier avait été si difficile à écrire et à sortir et à produire, etc., celui-là était une sorte de zéro question, zéro pression d'ailleurs. Il n'y avait pas du tout ce truc-là du deuxième album attendu, je ne sais pas quoi, j'étais pas du tout là-dedans. Et donc c'était vraiment un grand plaisir à faire. Ouais.
Bon, je suis embêté pour écouter des morceaux.
Bah, vas-y, choisis.
De toute façon, on va forcément écouter Mutate, parce que c'est vraiment le tube, entre guillemets, de l'album. Mais il y en a plein d'autres bien. Un, par exemple, qui est un peu moins d'écoute et que j'aime beaucoup, c'est Song 1-2.
Ah ouais?
Ouais.
Je l'aime beaucoup aussi.
Bon, bah, on peut commencer par ça.
Vas-y. Allez. Sweetest love, I do not go for weariness of thee, nor in hope the world can show a fitter love for me. But since that I must die at last, 'tis best to use myself in jest.
Bon, là, je l'ai un peu charcuté, on l'a un peu charcuté, mais justement, c'est l'intérêt du morceau, c'est qu'il prend son temps.
Ouais,
et qu'il
mais
il est.
Mais j'ai des souvenirs de live de ça. Ouais. Monumentaux.
Ouais.
Ouais, vraiment. Des bons souvenirs.
Tu le joues plus
Non, je le joue plus, mais on l'a joué, bien joué, c'était vraiment chambé.
Et tu le joues plus parce que...
Parce qu'on peut pas tout jouer.
C'est vrai.
Bon, il y a deux morceaux que tu joues forcément, ouais, c'est Mutate, absolument, et Radiate, je pense que tu le joues, ouais, aussi. On s'écoute Radiate, chacun rapidement.
Vas-y.
Allez, c'est parti, Radiate. Mmh.
the danger, the quiet anger, the troubles water. Smile on my face, I'm going under. Fear radiates, lights up a fire. You feel my anger radiate. My brutality, disseminate. Still feels empty around me. But now, now I can bear the vacancy. If you rise with the sun, we will rise together. Battle's only just begun and I'm going under. If you rise with the sun, we will go together.
Bon, et ensuite ça continue de monter, là on le sent tout au long du morceau. Là.
On la voyait aussi.
Moi, il marche à tous les coups, celui-là.
Ah, il est trop bien.
Je me rappelle très très bien de l'écriture de ce morceau-là. J'avais juste l'arpeggio là, des deux accords avec la mélodie. Et j'étais en résidence au 104 à l'époque. Et un jour, du coup, j'ai écrit la ligne de basse qui se développe pendant tout le. Pendant tout le morceau, et je crois que j'étais en high de ce truc-là pendant bien 3 jours complets de... d'avoir sorti ce truc-là. Et c'était, ça fait partie des moments hyper cool de l'écriture.
Il y a vraiment ça.
Qui peuvent arriver. Ouais. C'est pas tous les jours.
Oui,
comme
mais
ça.
Voilà, mais ça arrive donc
mais
vraiment où il y a
arrive,
des morceaux que tu sens depuis le départ où tu sais
quand
que.
Quand ça arrive, c'est magique quoi. C'est-à-dire, il y a un truc, il y a tout qui fait genre comme ça. Et après, en studio, avec justement les pam, 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 qu'on appelait les mouettes. Parce que mais ça, c'est des trucs qu'il avait fait au synthé Fred. Quand il a sorti ce son-là, moi, j'en pouvais plus, tellement c'est un truc qui est physique, tu vois, qui te rentre dans le corps comme ça. Et après, Marc, il s'était mis à la batterie, donc il avait commencé à jouer les charlets et à faire rentrer le kick. Poum, 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 poum. Et voilà, j'étais complètement fou en studio, quoi. C'était complètement électrique, quoi.
Ouais. Et ce sentiment-là d'euphorie. Ouais. Est-ce que ça retombe aussi à un moment? Est-ce que, tu vois, limite le truc, la chute après, oh putain, je peux plus l'écouter? Ou est-ce que c'est si bien?
Bah non, celui-là, non. Ouais, celui-là. Bah non. Ouais. Non, et puis en fait, en vrai, des grandes euphories comme ça, j'en ai pas eu mille. Radiate, ça a toujours été. Sur scène, c'est un morceau qui me cueille à chaque fois. Non, bah c'est quand c'est bien, quand c'est juste pour toi, parce que ça veut pas dire que c'est bien en soi, mais en tout cas c'est juste pour soi, parce que c'est quand même ça le but du jeu et le truc principal. En fait, ça, voilà, en tout cas celui-là, c'était.
Ça marche à chaque fois.
Quoi. Ça marche à chaque fois.
Bon, celui qui marche à chaque fois aussi, j'imagine, c'est Mutate. En tout cas, avec le public, quand même, ça doit être. Tu penses qu'il y a des gens qui viennent te voir, surtout parce qu'ils ont entendu ce tube-là, ils veulent.
À l'époque, oui, parce que. Ça, c'est marrant d'ailleurs, parce que c'était moins le cas sur le premier album. Sur le deuxième, il y a eu vraiment ce morceau-là qui est sorti, qui a fait qu'il y a plein d'autres gens qu'on a perdu d'ailleurs après, qui sont arrivés pour ce morceau, et puis qui sont repartis.
C'est vrai, tu le sens ça, le...
Bah oui, bien sûr.
Écoute, c'était bien les avoir.
Non, non, mais c'est ça, c'était bien. Mais il y a un truc qui. D'ailleurs, je me rappelle aussi quand on l'a écrit, je l'ai écrit avec Jen DeSilveo, qui est une songwriter américaine. Et quand on a écrit le hook, le refrain, it's unusual, c'est elle qui a écrit I'm you, un truc comme ça. Elle voulait un truc vraiment genre chevaleresque. Et moi, j'étais là sur mon petit siège, je suis là. Non, c'est tout moche. Et puis, en fait, ça n'a pas marché.
Bon, tu l'as chantonné, mon morceau. Écoute, vraiment, c'est parti.
Can you feel the vibration?
ça donne une idée, puis après évidemment ça part, j'avance un peu.
D'ailleurs, cette partie du milieu qui est arrivée à la fin...
Elle est bien, elle est importante.
Ouais, qui est arrivée à la fin de l'écriture du... après qu'on ait écrit le morceau avec Jen, j'ai ramené ça en studio. Parce que c'était juste trop bonne vibe pour moi.
Ouais, il fallait casser un peu
Il fallait
le
que
truc,
j'ai un truc un peu d'arcos au milieu, sinon ça marchait pas. Et quand j'ai trouvé ce bout-là, j'ai fait OK. Voilà, c'est bon, je peux vivre avec. Ça marche.
Tu sais quoi, ça apporte.
Ouais,
ah, sinon, c'était trop.
Ah, ouais, sinon, c'était. Ça me. C'est, ouais,
pourquoi
c'était
trop.
Tout...
Bah, trop obscène, trop. Enfin.
Bah, tu vois, ce truc de snobisme français, il est.
Ouais,
il est chelou.
Il est ancré, en fait. Ouais, ouais.
Non, mais en même temps, ça apporte un côté presque club, entre guillemets, qui contraste et qui enrichit le morceau, quand même, au final, je trouve.
Écoute, tant mieux.
Et du coup, avec ce morceau, donc, un public qui débarque comme ça, paf, waouh!
Bah, ça a ouvert, ça, ouais. C'était, ça c'est sûr.
Parce que, en gros, c'est de la programmation en radio. Derrière, avec cet album, c'est des invités chez Ruquier, des trucs comme ça, quoi. Enfin, c'est vraiment, ça prend de l'exposition, quoi.
Ouais. Plus de télé, ce qui reste quand même un truc, en tout cas à l'époque, je sais pas comment c'est maintenant, mais qui reste un truc important.
Ouais, pour la visibilité.
T'as vu l'impact direct de ce traitement médiatique?
Ouais, bah oui, oui. Enfin, il y a du monde au concert. Après, il y en a toujours eu, hein, du monde au concert. Donc, à partir du moment où on a fait les premières victoires sur le premier album, c'était. Il y a toujours eu du monde. Ça, c'était génial. Mm-hmm. Mm. Donc, ça, c'est quand même une chance, en fait.
Ouais,
en
vrai, fou. Ouais, bien sûr.
C'est. Non, mais c'est vrai.
Non, mais non seulement c'est une chance de malade, et j'ai même. Dans une interview, tu dis que tu as une certaine fascination, que tu rêves un peu de ces tubes où la chanson a pris le dessus.
Oui.
Tu sais, on ne sait plus qui la chante, cette chanson, elle vit d'elle-même.
Mais ça, c'est le tube. Hein.
C'est le tube.
C'est le système du tube où tu sais même plus. Tu connais la chanson plus que le chanteur.
Je ne sais pas si on peut mettre mieux tête à ce niveau-là, mais en tout cas, je pense qu'il y a eu un truc lors de sa sortie où des gens entendaient, ils ne savaient pas que c'était toi.
Ouais,
ils
ne
savaient pas
qu'il
était Jeannadette, mais par contre, il l'avait, tu vois.
Bah écoute, ça me fait plaisir. Parce que je pense que c'est vraiment. J'adore ce truc-là. Ouais. La musique, elle existe toute seule. Je trouve ça. Je trouve ça super. Ça me plaît vachement.
Même si il y a pas cette idée quand même de vouloir être reconnu pour ce qu'on a fait.
Ah bah je le suis de fait.
Non, je veux dire quand on prend cet exemple.
Ah bah si c'est le cas, je le prends pour moi. Hein, tu sais. Ouais, c'est pas.
Si tu connais pas ton nom, c'est toi quand même. C'est bon.
C'est quand même. Je le.
Non mais parce que alors ça n'a rien à voir et c'est poussé à l'extrême. Mais je pense à certains types de musique, notamment par exemple, tu sais ce qu'on appelle la nouvelle vague un peu lofi, tu sais, qui est beaucoup écoutée sur les plateformes, etc. Où en fait tu vas avoir des artistes qui vont avoir des streams complètement hallucinants, qui vont très très bien gagner leur vie. Mm-hmm. Mais en fait, ils sont tellement diffusés uniquement à travers les playlists, principalement, qu'ils ne sont absolument pas identifiés. Et que si demain, par exemple, ils voulaient faire des concerts, il n'y aurait pas grand monde, probablement. Bon, c'est un autre extrême. Hein, mais...
Ouais, c'est un autre extrême. Écoute, moi, si je ne faisais pas de concert, je serais quand même très malheureuse.
Ouais,
donc,
ouais, ça, on avait bien compris.
Ouais, voilà. Est-ce que c'est...
C'est clair. Je pense que ça c'est clair.
Non, ça, c'est pas possible pour moi, mais c'est... Donc moi j'ai quand même besoin d'un minimum de visibilité pour pouvoir faire des concerts. Mais et pour pouvoir après ça amène aussi pas mal de liberté en fait en vrai. C'est le système, enfin c'est ce truc là, cette ambiguïté de l'industrie, c'est-à-dire que à la fois la visibilité te permet de faire des choses, elle t'empêche d'en faire d'autres. C'est une sorte d'équilibre à trouver.
On peut peut-être en parler, je pensais en faire toute une partie un peu sur cette histoire d'industrie, etc. Mais on va l'intégrer plutôt à nos dernières discussions avant de passer au dernier album By Your Side pour essayer de te libérer à peu près à l'heure. Je crois que t'es Debbie Sensational, t'es sur le même label, t'es sur Naïve, c'est encore le cas aujourd'hui.
Non.
Ah non, merde, j'ai une bêtise,
non,
pardon.
Non, non, si, mais on vient de terminer notre collaboration.
Ah, ok. Okay.
Février dernier, fin du mois.
Oui, ok. Ouais.
C'est comment... parce que... Tu développes une expertise avec ta formation initiale, conservatoire, machin, etc. Ce qui te donne forcément des compétences en tant que musicienne professionnelle. Mais je ne sais pas si ça t'offre les compétences de naviguer dans l'industrie musicale. Et il faut trouver un label, il faut trouver un manager, il faut trouver un distributeur, un tourneur, etc.
Ouais.
Comment t'apprends à faire ça?
Je ne sais pas si t'apprends. En fait, il faut une... Moi, j'ai eu quand même pas mal de chance. C'est-à-dire que je suis tombée sur des... plutôt des personnes bien intentionnées au départ.
C'est les gens qui sont venus à toi plutôt ?
Bah, il y a eu mon tourneur en premier, Joran Lecor, qui n'aimait pas mon groupe de rock, qui m'a soutenue mais à 3000% et qui m'a fait rencontrer plein de gens, dont mon premier éditeur qui était mon premier manager. Et après, qui lui m'a fait signer à l'époque chez Naïve, et ensuite ça s'est déroulé comme ça, assez naturellement en fait.
Mais de rencontre en rencontre, de...
Ouais, et en fait, c'est vrai que moi au début, contrairement à des jeunes générations, moi j'étais tellement sur la musique et sur le fait d'avoir cette nécessité de faire de la musique et de... que tout l'aspect, tout ce qu'il y avait autour, je pouvais pas m'en occuper. C'était impossible en fait.
Tu déléguais et.
Tu déléguais, ouais. Puis tu croises les doigts, puis non mais c'est vrai.
Tu avoir une deux fois. Puis
non mais non, en fait en vrai, je me rappelle très bien. C'est-à-dire que quand j'ai signé mon contrat d'artiste à l'époque chez Naïve, mon avocat m'a expliqué point par point. À la fin du truc, j'étais morte de rire. J'étais là, c'est une blague en fait. mais je suis sortie. Je me rappelle. Très clairement, je suis sortie du rendez-vous de chez mon avocat qui m'expliquait donc le contrat. Des contrats qui n'existent quasi plus maintenant, ce genre de contrat. Hein. Et je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que tu as quand même envie de le faire ? J'ai répondu à ma question, oui. Et j'ai fait, bon bah let's go, et puis on ajustera plus tard. Ouais. En fait, à l'époque, je pouvais pas faire autrement. Maintenant, là tu vois, il s'est passé plein de choses. Je suis devenue coproductrice sur mon dernier album. Là, je suis plus en label depuis quelques semaines. La sensation est assez folle de liberté et de légèreté. Étonnamment.
Tu ressentais quand même une pression.
En fait, force est de constater, puisque je sens beaucoup de légèreté maintenant.
C'est vrai. y compris sur l'artistique, tu avais le sentiment
Non, parce qu'en fait, j'ai toujours été quand même très libre de faire ce que je voulais. Non, je crois que la pression, elle est financière, en fait. Et même avec les personnes les mieux intentionnées du monde, en fait, cette pression-là, elle existe. Et quand c'est pas toi qui décides d'où tu mets l'argent, comment tu le dépenses, etc., ben t'as des comptes à rendre en fait, quand même à un moment donné.
Ouais.
Et sans m'en rendre compte, je pense, enfin je m'en suis rendu compte quand ça s'est arrêté là très récemment.
Ouais. Donc c'est quelque chose que t'avais complètement intégré en fait et que tu questionnais pas. Quoi.
Ouais. Et qui en fait s'est fait genre, comme si c'est d'un coup.
Soulagement quoi.
Ok, là c'est juste de la musique là, au moins pour quelques mois.
Sans spoil, parce que ça, je sais pas si t'as décidé, mais parce qu'il y a différents modèles, différents contrats qui existent. Il y a aussi, on peut se débrouiller aussi tout seul, ça peut arriver, mais il faut être bien entouré quand même. T'as une idée de ce vers quoi tu t'orientes ou ce dont t'as envie pour toi en tant que professionnel ?
Non, pas pour le moment. Non, et d'ailleurs j'aime bien pour le moment ne pas savoir. Et j'avoue que être dans cet endroit-là où je peux me concentrer aussi sur ma vie à moi, parce que ça prend un temps fou de faire ce métier-là, à plein d'endroits, c'est-à-dire que ça prend toute la place. Pendant au moins un petit temps, c'est vrai que je suis pas mécontente de ça. Et même c'est très, très, très joyeux et très... en fait, c'est quasi vital. En fait, il y a un moment donné où t'as besoin de respirer, puis d'aller vivre des trucs. Et puis voilà. Après, faut quand même avoir un petit coup d'avance à un moment donné. Donc, je vais me poser la question dans pas longtemps. Mais pour le moment, je savoure un petit peu.
Est-ce que t'as parlé de la question financière ? Est-ce que c'est déjà posé à toi cette idée, cette ambivalence inhérente à la musique lorsqu'on la sort commercialement entre art, produit, qu'est-ce que je fais, quelle est ma place là-dedans, comment je l'assume tout ça?
Ben, en fait, ce que ça m'évoque là tout de suite, c'est le moment où où j'ai eu envie que ça fonctionne. Dans mon process, c'était, je me rappelle très bien, je faisais encore du jazz à l'époque, je me rappelle de croiser je croisais tout le monde parce que je jouais énormément. Je croisais donc des programmateurs de festivals de jazz constamment qui me tapaient sur l'épaule. On était les meilleurs potes de la terre quand je jouais avec machin. Et quand je leur envoyais un mail pour leur présenter mon groupe, il n'y avait plus personne. Et là, j'ai fait genre, ah ok, alors pourquoi ? Le calcul que j'ai fait à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, si tu ne remplis pas une salle, tu ne leur permets pas de vendre des tickets, et ben en fait, ils ne te répondent pas. Enfin, en tout cas, il y a un rapport de force qui se joue à cet endroit-là. Donc, l'endroit du succès, en quelque sorte, pour moi, il se joue de cet ordre-là. C'est-à-dire que c'est... Et d'ailleurs, c'est un rapport de force qui est très cordial. Hein,
mais ça reste un rapport de
force.
Tu défends tes intérêts, lui aussi.
Oui, et donc du coup, et la personne en face qui va me programmer, elle sait que ça va permettre de remplir sa salle qu'on passe tous un bon moment. Ou alors, je sais pas, ça rapporte un truc d'image, ou j'en sais rien. Mais c'est une transaction comme ça, hein, de toute manière. Hein. Faut pas être
naïf. Pour reprendre le nom d'un label.
Okay. C'est une transaction en fait. Et moi, dans la pop, il y avait une sorte de truc assez clair, ou en tout cas un truc assez frontal qui me plaisait bien là-dedans. C'est-à-dire que du coup, il n'y avait pas de...
On ne se cache pas derrière l'artistique, c'est juste...
Il y a un truc concret, c'est-à-dire... Et ça, il y a quelque chose que moi, je peux comprendre, en tout cas, et qui me rebute pas et que je trouve cohérent, ou en tout cas, qui peut me paraître d'une certaine manière justifié ou justifiable, etc.
Donc, qui est quelque part plus honnête dans la pop que dans d'autres styles musicaux.
En tout cas, moi, il y a eu à ce moment-là un truc que j'avais besoin de cette clarté-là.
Ouais.
Et je sais pas si c'est plus ou moins vrai, mais dans d'autres trucs, mais en fait, en vrai, si tu remplis des salles, ou que ce soit, ça marche. Hein. Le rapport, il est clair.
Mais c'est quand t'es pas encore à ce statut-là de remplir des salles, où justement, il faut te poser des questions.
Puis là, si on va jusqu'au bout de ton propos, on pourrait se dire aussi qu'à un moment, on peut accepter d'être devenu un produit.
Ah mais de toute manière, t'es obligé. Ça, c'est une réalité, malheureusement. Et c'est là qui est assez, c'est un peu compliqué à naviguer et à la fois passionnant, c'est-à-dire ce que tu acceptes de lâcher pour aller là où tu as envie d'aller. En fait, ce que ça peut gagner si tu t'y prends pas trop mal, c'est beaucoup de liberté en fait.
Oui, c'est ça en fait.
Le but du jeu, c'est ça. Enfin, en tout cas pour moi, c'est de la liberté de choisir les concerts que tu fais, d'avoir des moyens pour faire un disque, des moyens pour faire un spectacle que tu répètes comme tu veux, avec le nombre de personnes que tu veux, le temps que tu veux. Tout ça, ça permet des choses. C'est-à-dire, dans ce sens-là, et ça permet de faire de la musique, de continuer à en faire.
Donc c'est des compromis. Quelque part, plutôt que de se dire « Non, c'est ma musique, elle est comme ça, et ils ne l'ont pas compris, mais ils vont la comprendre. »
Ouais, mais non, mais sauf qu'en fait, c'est des compromis ou c'est des choses qui te permettent de faire ta musique, en fait.
Ce que je comprends dans ce que tu nous dis, c'est « Ok, j'accepte de jouer vos règles. Par contre, à partir du moment... »
Vous me foutez la paix.
Ouais, c'est ça. C'est arrêter de m'emmerder. Regardez, c'est bon, on a vendu les trucs.
Je ne l'ai pas dit comme ça.
Mais il y a un peu cette idée, quoi.
Il y a un truc de... Enfin, c'est de toute manière, c'est du donnant-donnant. C'est-à-dire que...
Il n'y a pas de réponse définitive à tout ça. C'est des expériences. Je crois qu'on fait les choses, comme tu le disais à un moment. Bon, il y a une trajectoire. On la suit. À des moments, on a peut-être un peu plus de recul qu'à d'autres.
Ouais.
On dit, là, par exemple, typiquement, je pense que tu as raison de se dire bon, là, j'ai plus de label. Vas-y, peut-être que. On prend le temps un peu, on voit.
Après, le truc, c'est toujours. C'est ce que je dis tout le temps. C'est un truc que je répète régulièrement, mais c'est. Le but du jeu, c'est d'avoir envie de faire ce métier-là le plus longtemps possible. Et dans ce métier, il y a plein de choses qui ne sont pas de la musique et qui peuvent déconnecter un peu de ce plaisir ou de ce désir-là. Et, Et ça, c'est un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné il y a déjà de nombreuses années, mais c'est de protéger ce désir-là de faire de la musique. Et ça, c'est le seul truc, en fait, que je fais, je crois.
Et t'as cette question d'exister sur la durée, justement, parce que toi, faire de la musique, ok, mais ouais. L'intérêt, c'est que ta musique, qu'on l'écoute et qu'on vienne au concert, tu vois, et de te dire, est-ce qu'à un moment donné, tu seras plus... en phase avec ce que les gens veulent entendre ou veulent écouter, et dans ce cas-là, continue à faire de la musique pour toi en sachant que, tu vois, est-ce que tu te renouvelles, est-ce que tu t'interroges sur les sonorités, les esthétiques
Alors, il y a le fait de faire de la musique, il y a le fait de gagner sa vie.
Parce que toujours corrélé.
Ouais, mais donc c'est un métier quand même, dans ce point de vue-là.
Ouais.
Gagner sa vie en faisant de la musique, t'es pas obligé d'être au top 50. Hein.
Mmh.
Si ça ne veut rien dire, le top 50, ça ne veut plus rien dire.
Si, on a la ref.
Dans le top Spotify.
Dans le Billboard. Qui vient de se retourner en faisant genre, ouais, qu'est-ce qu'elle dit ? Top 50.
Elle a la ref aussi. Oui, c'est faire de la musique sans forcément être une star.
Bon, après, moi, j'ai envie de parler au plus grand nombre, évidemment, mais je sais pas quoi dire.
Toi, t'as pas d'objectif d'audience, en vrai, t'as pas ce genre de truc. Tu te dis juste, je fais de la musique, j'espère que ça plaît aux gens, mais y a pas un calcul.
Évidemment, t'as envie que ça marche.
Bien sûr. Mais tu te poses pas la question dans quelle proportion, ou tu vois, je veux faire Bercy, ou je veux faire
Stade 2.
Je dis
ça comme ça,
France.
Une de ses grandes inspirations, c'est Madonna, quand même.
Ah ouais, ok, bah c'est bon.
Voilà, c'est le futur, il faut devenir Madonna maintenant.
Okay. Bah, Madonna, là où en tout cas elle m'inspire énormément en ce moment, c'est sa longévité. Je la trouve merveilleuse.
Ah bah oui, là, c'est même une capsule temporelle.
Ah non, mais je la trouve complètement libératrice.
Il y a un
elle
moment
a
donné...
Non. Alors attention, qu'est-ce que tu veux dire ?
Non, mais c'est vrai. Moi, en fait, tu vois, Madonna, moi, j'ai vu l'icône pop arriver, machin, etc. Mais c'est pas une artiste sur laquelle je suis allé naturellement. Par contre, je l'entendais, ça me dérangeait pas de l'entendre, et j'ai toujours trouvé en phase avec l'époque. Mais au moment où Jay-Z et compagnie, là, ils ont sorti Tidal, et qu'elle est arrivée, et que tu sais, c'était allongée à moitié sur la table pour signer le contrat en mode non, notre musique, elle ira pas sur Spotify, machin. Je me suis dit waouh.
Ah, j'ai pas suivi ça.
Flemme de ouf en vrai, tu vois. C'est-à-dire, c'est là où je me suis dit. Et si elle était un peu has-been, elle ?
Non, après, tu sais, ça c'est. Il y a plein d'artistes. Je connaissais pas cette histoire, mais.
C'est complètement subjectif.
Si j'ai bien compris. Rien dire en plus.
Elle a pas voulu jouer le jeu des plateformes à un moment, c'est ça ?
Non, mais en fait, c'était le côté. Si tu veux, je pense que 99,9% des artistes qu'on a aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu Madonna, ces personnes ne seraient pas comme elles sont aujourd'hui. Tu vois, la façon de se présenter sur scène.
L'influence, c'est monstrueux.
Voilà, vraiment, c'est gigantesque, tu vois. Et en fait, à un moment donné, je sais pas, moi, j'ai eu le truc où. Tu dis, ah putain, il se passe quelque chose. Tiens, comme la première fois où tu vois Michael Jordan se faire crosser par un joueur plus jeune que lui, tu vois.
Ah, dire, bah, c'est un peu moins pertinent, quoi.
Tu vois, ça, voilà, c'est genre, t'as Allen Iverson qui arrive, il fait un cross et Jordan il tombe par terre. Et là, tu fais, il s'est passé quelque chose,
Après,
tu vois.
Après, elle a un niveau où c'est. Où ce genre de truc, ça se voit beaucoup potentiellement. Effectivement,
peut-être
ça se voit
aussi.
Plus t'es grand, plus t'es haut, plus.
Non, mais aussi le fait que les choses qu'elle a permis de faire, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle a permis de faire des trucs. À une époque où c'était controversé de faire ce que elle faisait, sauf que une fois que le truc qui t'a permis de percer, tu as réussi toi à le rendre mainstream, c'est-à-dire que c'est accepté, acceptable, eh ben t'as plus rien à défendre. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que du coup, quand toi t'insistes sur ces trucs-là, t'as envie de lui dire, moi j'avais envie de lui dire, cousine, ça y est, c'est bon en fait, t'as gagné. Hein. C'est plus la peine de s'allonger sur la table en barésie pour signer des contrats. T'as eu, c'est bon. Ça... En fait, ça choque plus, non, tu vois.
Ça je comprends. Ouais,
mais c'est la preuve que si, ça te choque encore.
Non, mais ça me choquait dans le mauvais sens.
Manière,
tu vois. Ouais. Ah, mais ça reste un choc.
C'est vrai.
Ok.
Mais si, en fait. Et en fait, en vrai, ce qui choque maintenant, c'est qu'une femme de son âge se permette de s'habiller encore comme ça et de se présenter. De manière sexuée, sexuelle, à son âge.
Peut-être, ouais.
Oui, c'est évident.
Non, ça, mais une Madonna de 20 ans aujourd'hui, ça serait par contre moins pertinent, à mon avis, dans l'outrance et dans ce que ça dit notre société.
Il n'y a plus d'outrance.
Non, mais ça marche quand même. Hein. Ces codes-là sont restés, par contre.
Bien sûr, mais avec dénués de substance, quoi. Enfin, bon sens, bref.
Ouais. Ça, je sais pas.
En gros,
tu as raison sur l'âge, effectivement.
Ça, c'est évident. C'est évident. Et c'est et moi, elle me plaît vachement là-dessus. C'est-à-dire que son endroit où elle continue non-stop à faire des gros doigts à absolument tout le monde et faire bien tout ce qu'elle veut, elle est quand même assez merveilleuse. Et jusqu'au bout, je crois, elle a un truc... Et qu'elle s'allonge sur les tables en barésie pour signer ses contrats. Non mais zut.
Non mais voilà, c'était ouais bon
pour revenir à.
Ça t'a pas parlé à toi, d'accord.
Ça m'a, ouais, ça m'a, non mais ça.
Moi
en fait,
ça
c'est
me
même,
cause.
C'est même pas ça, c'est que en plus, encore une fois, moi c'était une artiste que je voyais évoluer, je voyais faire ses trucs et vraiment rien ne m'a jamais choqué ou dérangé, tu vois, je trouvais ça cool au contraire. Et là, c'était vraiment genre, ah, tu vois, c'est un peu la tati un peu gênante. Non,
mais, et puis le
mais c'est le dernier truc vraiment gênant, c'est la vieillesse des femmes.
Je sais, qu'on non, mais je savais qu'on allait arriver là-dessus et c'est pas du tout ce que je voulais dire. Pardon, pardon, mesdames, oiselles.
Non, c'est, moi, c'est,
non c'était pas ça le truc.
Ce que je retiens plutôt, c'est cette défiance qu'ont pu avoir certains artistes vis-à-vis des plateformes. Autant certains ont réussi leur coup en cherchant une espèce d'entre-deux, je pense à Taylor Swift par exemple, qui a fait pression sur les plateformes de manière assez admirable d'ailleurs. À l'inverse, ceux qui à un moment ont dit vraiment, bah, vous savez quoi, eh ben, moi je viendrai pas. En fait, en général, 2 ans après, ils y sont.
Mais en fait, c'est ça, tu vois, ça
n'a jamais marché.
En fait, c'est tout le truc du. Quand je disais has-been, c'était ça aussi, c'est-à-dire que putain, t'es dans le son depuis 40 000 ans, t'as pas compris le marché. C'est bizarre, tu vois. C'est un peu comme ce que Prince a fait.
Complètement. C'est un bon exemple aussi, Prince.
Prince était complètement novateur, tu vois. Sur plein de trucs.
De la plaque.
Et après, il passe à côté du bise, en fait.
Mais en même temps, ça a tellement changé.
Ouais, bien sûr.
Le moment où ces mecs-là, ils ont commencé. Et maintenant, enfin, je veux dire, même moi, entre le moment où moi j'ai commencé et maintenant.
Ouais, t'as vu déjà
10
le.
Ans, c'est, ça a déjà plus du tout la même gueule.
Ouais.
C'est. Fin, c'est... Faut.
Ouais, sur 40 ans de carrière.
Connecter à l'intérieur. Enfin, je veux dire, c'est quand même. Moi, je sais pas. J'ai pas de point de vue particulier sur.
Pour revenir à toi et à By Your Side et la suite, juste peut-être quand même cet album, moi, ce qui m'a marqué à son écoute, c'est que je l'ai trouvé, je sais pas comment dire ça, moins calibré, entre guillemets, peut-être que Mutate, que Radiate, pardon, tu sais, qui est vraiment, comme je le disais, qui se tient du début à la fin, etc. Là, on sent que t'as voulu explorer un peu plus de choses. Peut-être que ça te ressemble plus, d'ailleurs, je sais pas quelle était ton intention. Mais c'est un album que je dirais presque moins mainstream, d'une certaine manière.
Ouais, c'est possible. Ouais. Tu peux sortir les chiffres, mais je crois que oui.
C'est trop plus difficile d'accès, en tout cas.
Ouais, c'est vrai. Écoute, c'est possible. Écoute,
moi, non, ça peut être bien d'ailleurs. Hein.
Ouais, ouais, moi j'ai aucun problème avec la musique compliquée, mais, mais c'est dans le sens où j'aime ça aussi, mais ou plus expérimentale, n'importe quoi. Mais non, c'est quand même pas expérimental. Après,
non,
c'est
non.
Le son. Non, c'est moi je crois qu'il y a un truc. J'ai continué ma recherche de songwriting sur cet album-là. Qui commence à dater un petit peu aussi le moment
2022.
Où je l'ai écrit.
Ah oui, cool.
Et ouais, et de ce point de vue-là, j'étais vraiment contente de comment ça s'était développé et du travail. C'était pas mal de boulot, il a été difficile à faire cet album.
Donc moins fluide que le deuxième, du coup, en termes de, de process de travail et tout.
Ouais, un petit peu.
Tu t'es entouré d'un réalisateur aussi cette fois, enfin,
ouais, qu'on a co-réalisé avec Renaud Létang.
Okay.
Et voilà, c'était passionnant.
Il vient de quel univers musical, Renaud Létang?
Renaud, c'est un mec qui a fait tant Philippe Catherine que Manu Chao, Souchon, Liane de la Havas, enfin, tout un tas de groupes. Benny Sings, etc. Tout un tas de choses très différentes. C'est un mec du son, vraiment. Donc on est allé très très loin dans le travail de studio, pour le coup. C'est le gars qui a repris Ferber, donc, qui a sauvé ce studio-là, la Porte de Bagnolet à Paris, qui est un studio mythique parisien, avec un plateau d'orchestre sublime, dans lequel il y a plein de films qui sont tournés tout le temps. C'est très 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 beau. Et donc il a son studio là, à cet endroit-là, et c'était un vrai travail de studio, même quasi à l'ancienne, tu vois, avec... donc on a fait venir des musiciens, on a passé du temps à tout disséquer. C'était de l'orfèvrerie, vraiment, et c'était passionnant et hyper intéressant à faire.
Et c'est toi qui allais le chercher, c'est lui qui t'a...
On a le même management.
D'accord.
Et c'est comme ça que ça s'est fait.
Ok.
On s'écoute quelques morceaux. Alors moi j'ai mis de côté, bon il y a évidemment Au revoir pour illustrer le fait que tu parles plus, enfin que tu chantes plus en, en français sur cet album.
Jacques Toubon apprécie.
J'aime bien aussi Another Place et Three Songs.
Enfin, on est sur une, sur une phase de référence.
Allez on les enfile, hein. Ah bah oui. Ah bah oui. Qu'est-ce que, c'est qu'est-ce grâce que... à lui qu'on en est là.
Tu vois, qu'est-ce que t'as envie d'écouter sur l'album?
Bah, tout à l'heure, t'as mis Three Songs.
Ouais,
t'aimes bien Three Songs. Ouais, tu peux switcher un peu l'intro.
Ouais.
Mais j'aime beaucoup Three Songs.
Allez. Juste quelques secondes d'intro, après j'avance.
Vas-y, avance.
Tu vois, je trouve que dans les... là, on l'entend par exemple avec la basse derrière. Et puis, tu sais qu'il y a un truc, ouais, musicalement, peut-être un peu plus déstabilisant parfois, tu vois.
Ah ouais.
Ouais, c'est un bien grand mot, déstabilisant, mais tu vois, une recherche effectivement un peu plus expérimentale, disons.
Ouais, c'est possible. Ouais. Écoute, c'était pas le but au départ.
Ouais. Oui, mais tu me dis quand même qu'il y a eu ce travail de studio, que vous avez passé du temps, etc.
Oui, non, mais après. Non, au départ, c'était non, c'était pas ça vraiment le but. Mais d'ailleurs, tous les morceaux sont pas comme ça. Hein. Ouais. Il y a...
Oui, il est varié l'album.
Oui, il est assez varié.
C'est vrai.
Il est assez varié. Il y a des morceaux genre type Antidote ou même Au revoir hein, qui sont plus accessibles et qui ont des formes très traditionnelles même en termes d'écriture. Hein. Donc non, c'est
Et puis il y a aussi cette forme de synthèse où on revoit un peu de son acoustique aussi. Il y a un truc comme ça aussi qui se joue quand même de... J'ai l'impression qu'on arrive à une
c'est
forme...
C'est un peu moins numérique, on va dire.
D'une part. Et puis ouais, peut-être une somme un peu de ce que tu as acquis avec, avec le temps quand même, qui se sent à travers cet album, je trouve.
Ouais, c'est possible. Il y a un truc assez complet, en fait, en vrai. Et moi, j'adore le son de ce disque. J'adore les grooves. C'est un album que j'ai écrit vraiment en partant sur... Je l'ai beaucoup dit, mais... En partant de, j'ai écrit d'abord tous les grooves de batterie. Je me suis d'abord concentrée là-dessus, fait toutes les prods de batterie et de boîte à rythme. Et j'ai d'abord, en fait, même avant ça, j'ai d'abord décidé des tempos des chansons.
Ah ouais.
Ouais. Okay. Donc, je suis partie des tempos, puis des grooves, puis après j'ai construit tous les morceaux.
D'accord. Sur la base rythmique à chaque
ouais,
fois.
Ouais, à chaque fois la base rythmique. Départ.
Ok.
Ouais.
Ce que je vous propose, c'est qu'on s'écoute un dernier morceau de By Your Side et on se quittera peut-être avec ça parce qu'on va te mettre en retard vraiment là. Okay. Il est un peu plus d'écart passé.
Ah, être en retard.
Oui, donc on est désolé. Les recos aussi, peut-être qu'on pourra faire. Tu sais, normalement, on finit avec des recommandations.
D'accord.
Est-ce que tu voudras bien, a posteriori, nous donner un morceau que tu recommandes,
d'accord,
un morceau que tu aimes. Et là, je te propose qu'on les mette dans la description, un truc comme ça. Parce que c'est. Voilà.
Mais sinon, on ne fait pas de recos, c'est pas vrai.
Sinon, on ne fait pas de recos. Bah, mais bon,
voilà. Bah, si, on peut écouter
un extrait de By Your Side.
Un extrait de By Your Side, mais surtout un extrait de l'album de mon pote que je vais voir en concert ce soir.
Ah bah voilà. Cycle.
Voilà, Slidey.
Très bien.
Et Paisley Vibes, parce qu'on partage la même passion pour Prince.
Voilà. On s'écoute un extrait comme de By Your Side, et ensuite on se termine sur le générique
non, Paisley
de fin.
Rules, parce que je crois que ça s'appelle comme ça.
Sur Paisley le générique Rules. De fin, on met Paisley Rules de Slidey.
Allez.
Juste pour un deuxième extrait de By Your Side, je précise d'ailleurs que il était sorti en 2022, tu l'as défendu sur scène, mais tu vas repartir en tournée avec une nouvelle approche cette fois, plus minimaliste, plus acoustique.
Acoustique avec piano et mes deux chanteurs.
Okay.
Un pianiste et mes deux chanteurs, Bruno Ruder. et Naël Cassède et Laetitia Ndiaye au chant.
Et l'idée, c'est de le défendre aussi dans des salles un peu différentes, dans des lieux différents.
Ouais, on fait que des petits théâtres, entre nous.
Écoute, bon, en tout cas, on invite les gens, s'ils veulent découvrir ta musique en live, à aller voir ça.
Non, mais de toute manière, il faut aller écouter la musique en live. Hein. Ouais. Je le dis à la fin de chaque concert, et c'est vraiment... Moi, je pense que c'est... Évidemment, ça nous accompagne tous les jours dans nos casques, dans nos vies, dans notre intimité. Mais aller vivre la musique en live, tous ensemble, dans une même salle, avec des musiciens qui jouent, c'est hyper important.
Mais d'accord. Allez, il y a quand même un extrait de By Your Side, un dernier, c'est à toi de choisir, vas-y.
By Your Side.
Eh bien, très bien, on fait comme ça.
Pourquoi tout le monde chuchote, là?
Parce qu'on va mettre la musique, on
fait comme ça.
Tout doux à la fin.
To be true, I truly pretend not to believe you. I truly am sorry that I love you. And if my lies are truer than yours, trust my heart is stronger now than ever before. True, I truly pretend that it's me, not you. And if we're holding hands through the night, you'll find me closer than I ever was. Finally, having faith in you, simply being by your side. I truly am, oh, by your side. Could we be friends, oh, by your side?
Très jolie ces harmonies de voix.
Très chouette.
Ouais. Jeanne, c'était trop cool. Merci beaucoup.
C'était trop court.
C'était un peu court. Non, en vrai, c'est pas si court, mais c'est vrai qu'on aurait pu continuer longtemps.
Ouais, c'est vrai qu'en fait, parler de musique, finalement. Bah
ouais. C'est pas mal, hein, c'est cool. Hein.
C'est chouette. Ouais, hein.
Mais j'adore ça.
Bah, écoute,
j'ai plein
aussi.
De théories, j'ai plein de trucs.
Tu veux revenir nous voir pour raconter tes théories.
On fera un épisode 2.
On fera un épisode 2.
Oui, parce que là, on a parlé ma vie, mon œuvre, etc.
T'as envie de parler d'autres trucs?
Mais on peut parler de musique, en fait, aussi.
Et bah, tu sais quoi, si t'as des sujets de prédilection, on voit si ça peut coller avec des trucs qu'on voulait traiter et tout, et tu viens en experte, tu viendras tes théories.
Ah ouais.
Ouais, experte en théorie.
Experte musique.
Allez,
on fait comme ça.
C'est internet, on peut être qui on veut, d'accord.
Mais nous, on est des experts, après tout. Bon, en tout cas, merci aussi, évidemment, à vous de nous écouter.
Oui,
de
merci,
nous suivre toutes les deux semaines. Merci aussi à la team Bouclette. Là, c'était Clément et Erwan aujourd'hui. Flav aussi,
nouveau,
quand même.
C'est fou, ça.
Absolument.
Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être des gens se sont fait virer. Je vais aller enquêter après.
Un petit merci aussi à Patricia qui a facilité.
Merci, Patricia. On a reçu, nous aussi.
Absolument, qui a participé à l'émission. Et puis
merci Jeanne.
Merci Jeanne à nouveau.
Merci à vous.
C'était trop cool. Merci Thomas, évidemment.
Bien sûr.
Montre le mug.
Oui. C'est corpo.
Et puis, merci François, évidemment, notre monteur. On se retrouve, nous, dans 15 jours. Nouvelle invitée, nouveau sujet. On se quitte avec Sylvain Daniel, Slidy, Paisley Rose.
Paisley Rose.
Et on écoute ça. Ciao.
Prince.